Donc, bonjour. Alors, vous êtes l'Institut des Libertés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Dominique Motte. C'est une vieille famille du Nord, les Motte.
Absolument.
C'est une vieille famille du Nord. Et vous vous êtes trouvé en Suisse parce que vous deviez une mère suisse.
Absolument.
Et vous êtes resté en Suisse.
Non, j'ai fait moitié-moitié.
Moitié-moitié. Mais maintenant,
moitié
vous
France,
vous êtes...
moitié Suisse. 40 ans.
40 ans. Et donc... Vous êtes habilité. On va assez peu parler de la France, parce qu'on ne tire pas sur une ambulance, si je peux me permettre. Ce que je veux dire, on va parler de la Suisse. Pourquoi ce pays marche? Alors, je vais commencer. On va avoir des échanges courtois, si vous me permettez, parce qu'il y a des tas de gens qui m'ont invité de temps en temps et c'est pas courtois du tout.
Ils ne sont que courtois.
Ils ne sont que courtois. Et je vais commencer par une petite réflexion sur la souveraineté. Le souverain, c'est votre propre, c'est un petit élément comme ça. Le souverain, c'est vous. Et c'est extraordinairement important parce que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que le souverain en Suisse, c'est le citoyen individuel. Il est individuellement souverain. Il n'y a pas une souveraineté de la France. Il y a une souveraineté du citoyen lambda suisse. Et comme c'est un sujet qui est extrêmement important, la souveraineté, vous avez fait un livre tout à fait étonnant qui s'appelle « De la démocratie en Suisse », qui a été édité par la Route de la Soie, qui s'appelle Madame
Bressler,
qui est donc une éditrice en Suisse, qui, d'après ce que vous m'avez dit, est une redoutable alpiniste aussi.
Oui, absolument.
Et ce livre, je l'ai trouvé passionnant parce que c'est un dictionnaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas souverain individuel par hasard. Il y a des milliers de lois, de règlements, de pratiques de tous les jours qui assurent que vous êtes souverain, en quelque sorte. Il n'y a pas de... Et vous avez, dans le fond, vous l'avez organisé par ordre alphabétique. Chacun des sujets fait à peu près 2 pages. Et donc, quiconque veut comprendre comment on passe à la souveraineté individuelle, qui est beaucoup plus importante que la souveraineté collective, parce que la souveraineté collective, c'est comme souvent le collectivisme, c'est du pipeau. Où vous vous sentez souverain personnellement. Et je vous disais tout à l'heure, quand on en discutait, que dans le fond, cette notion de la souveraineté individuelle, elle est profondément chrétienne, c'est-à-dire, je le dis toujours, Dieu ne s'est compté que jusqu'à 1. Il veut avoir une relation avec vous, et vous avez un projet dans la vie qu'il vous a fixé, c'est à vous de le trouver. Et dans le fond, vous ne pouvez pas trouver votre projet si vous n'êtes pas souverain. Ça me paraît tout à fait... Donc... La Suisse, quelque part, peut-être son côté protestant, etc., luthérien, calviniste, est arrivée à mettre au point une situation, je dirais presque une civilisation, de la souveraineté individuelle. Et tout est expliqué dans ce livre. C'est donc la route de la soie. Et ce que vous avez fait, fort modestement, vous m'avez dit, j'ai rien écrit, je n'ai fait que mettre en place tout ce qui existait déjà, c'est-à-dire que vous donnez vos sources à chaque fois, pourquoi, comment ça se passe, etc. Donc, quiconque veut comprendre la vraie démocratie directe, vous aurez besoin de ce livre pour...
Il n'y a même pas une demi-page de déplacée, je dirais, à Monsieur le maire.
Oui. Voilà, il n'y a pas de demi-page. Donc, c'est un livre pour quiconque veut savoir comment ça se passe dans la pratique pour la Suisse. Comment ça marche. Alors, donc, ce premier point étant fait, ayant présenté le livre... Ayant présenté Rousseau, qui lui-même était suisse d'ailleurs, qui n'a pas été très bien compris en France. Je crois qu'il y a des tas de gars qui ont pris Rousseau, qui n'ont pas pigé. Je vais vous demander de nous raconter, parce que rien n'arrive au hasard, l'histoire de la Suisse. Comment ça s'est passé? Pourquoi d'un seul coup, ces cantons au milieu des Alpes ont décidé de se mettre ensemble, de rester souverains indépendamment, etc. Racontez-moi l'histoire de la Suisse, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Français connaissent un peu l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Angleterre, etc. Mais alors de la Suisse, ils n'ont pas la moindre idée. Remarquez, il n'y a pas beaucoup d'histoire et vous n'avez rien arrivé, mais non, c'est pas par hasard.
Non, il n'y a rien arrivé.
Allez-y. Racontez-moi un peu l'histoire de la Suisse.
D'abord, il faut comprendre que la Suisse a 4 frontières.
Oui.
4 frontières qui sont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Et j'insiste sur l'Autriche parce que en 1291, quand nous sommes réunis à ce qu'on appelle au Grütli, c'est-à-dire sur une prairie au lac des 4 cantons, je ne sais pas si vous connaissez à peu près le quartier là-bas, en Suisse, on s'est réunis à 3 cantons et on voulait défendre nos intérêts face aux Austro-Hongrois.
Qui était une grande puissance de l'époque. La Hongrie, c'était pas un cadeau à ceux qui avaient battu les Mongols.
Ah non, pas du tout. Donc ils étaient sans arrêt en train de nous titiller, probablement, etc., je sais pas. Et donc à ce moment-là, ces trois cantons de base se sont mis entre eux et ils ont dit, on va se réunir à trois et nous allons nous défendre contre les Austro-Hongrois. Voilà.
Et c'est le début de la Suisse.
Ah, c'est le début de la Suisse. Alors, le début de la Suisse, avant 1291... il y avait ni Suisse, évidemment, parce que le mot Suisse est arrivé seulement en 1850. Donc ça s'appelait la Diète. La Diète, c'était le parlement d'alors. Donc c'est-à-dire, on serrait la main, on buvait, et puis on repartait chacun dans ses champs et avec son bétail. Bon, et probablement. Mais ça s'est fait contre l'adversaire. Et donc, c'est à ce moment-là que ils ont signé un acte, c'était le 1er août, disons que c'est au mois d'août 1291, et ils ont dit, dorénavant, on s'échange, probablement ils sont échangés du sang, ils ont dû faire une fête, et le 1er août est la fête de la Suisse. Parce donc voilà la naissance.
Il n'y avait que trois cantons au début.
Ah, trois cantons.
Et alors, et les autres, ils sont agrégés comment?
Les cantons s'appelaient Uri, Schwitz et Nidwald.
Ils existent toujours?
Ah, c'est des cantons absolument comme des puces. C'est des tout petits cantons. Et ce sont eux trois qui se sont dit, vaut mieux s'unir, non pas autour, je fais allusion à d'autres pays, non pas autour d'un roi, mais contre voilà. À partir de là, ça y est, c'était fait, on se réunit, mais si on se réunit, c'est pour se défendre contre l'adversaire. Et j'ose vous dire qu'aujourd'hui, ils se sont réunis à 26, comme par hasard, alors que nous avons 26 cantons, et ils sont à 26 aujourd'hui au Danemark, en train de se réunir contre un grand pays qui leur veut du mal.
Voilà, donc l'histoire se répète.
L'histoire se répète, absolument.
Mais j'espère qu'on aura les mêmes solutions que les vôtres.
Et on est en 2025. Voilà.
Donc la Suisse, 1292.
Voilà.
Ensuite, vous mettez une branlée au duc de Bourgogne.
Ah, bah alors là, oui. Alors là, vous m'avez dit, oui. Je voulais expliquer à quoi servait concrètement une démocratie directe.
Oui.
Eh bien, je vais vous donner des exemples de.
Allez-y, racontez-moi.
Bah, bien sûr. Alors, nous prenons le duc de Bourgogne, qui s'appelait Charles le Téméraire.
Bien sûr.
Il arrive de la Hollande et tout ça, il descend, il campe pas loin du lac de Morat. Et le lac de Morat, c'est près du lac de Fribourg. Fribourg en Suisse, hein, mm-hmm. Pas Fribourg en Brisgau, en Allemagne. Hein. Fribourg en Suisse. Et le lac de Morat est à 20 kilomètres de là. Et il dit, demain, on va attaquer les Suisses, on va les foutre par terre, on va gagner je sais pas quoi. Il se campe là, les Suisses sonnent du cor. Donc il n'y a pas d'armée qui sont disponibles. Il y a les cantons. Là, on est en 1476. Donc on a déjà 10 ou 11 cantons. Hein.
Oui, oui. Donc déjà, des gens qui s'étaient unis, qui avaient suivi, qui s'étaient agrégés.
Qui étaient unis, toujours pour se défendre contre. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça l'essentiel de la démocratie directe. Et puis, ils se réunissent donc la veille au soir. Et la veille au soir, ils votent pour savoir qui va diriger le combat demain pour le compte des Suisses, qui sont 5000. Le duc de Bourgogne, 20 000. Donc là, vous avez exactement la différence entre 20 000 personnes autour d'un duc de Bourgogne et 5 000 personnes unies qui élisent tous. Vous comprenez toute la différence.
Mais vous savez, c'est le vieux truc qu'il y avait aussi avec les Spartiates, là, qu'il y avait contre eux. C'était la liberté représentée par les Spartiates contre la multitude représentée par l'empereur de Perse, quoi. C'est souvent ça. Et souvent, les 5000 qui sont motivés, si j'ose dire à mort, ratatinent ceux qui sont sous les ordres d'un chef, quoi. C'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. Sur les 20 000 qui étaient, il y en a 10 000 qui sont au fond du lac. Et quand on va se promener au lac de Morat, moi j'étais souvent avec ma mère, 3-4 fois, parce qu'elle habitait Fribourg à ce moment-là, elle me disait toujours qu'on voyait le lac de couleur rouge dans le fond du lac de Morat, c'était le sang des Bourguignons qui était resté au fond du lac.
Voilà, bon. Voilà.
Mais sur les 5000, il y a 500 Suisses qui ont disparu, ou 1000 qui ont disparu, mais néanmoins, les 5000 ont foutu une branlée aux 20 000.
Et le duc de Bourgogne...
Il a juré de plus jamais revenir.
Non, mais je crois qu'il est mort, surtout. Il a été tué à cette bataille, non?
Non. Ah non.
Non,
il est reparti.
Il est reparti.
Je sais pas très bien où.
C'est parce qu'il a été tué quelque part, je crois, par des Suisses aussi. En France. Et il avait été bouffé par les loups.
Mais je ne sais pas. J'ai pas suivi parce que si c'est français, j'ai pas suivi.
Non, mais c'était Louis de Beaumont, c'était le principal ennemi de Louis XI.
Je prends un grand homme que tout le monde aime beaucoup dans votre pays, qui s'appelait Napoléon. Et Napoléon, j'ai dit, moi là-dessus, je vais l'avaler en un rien de temps, je suis parti. Donc je prends un deuxième exemple, là, pour montrer à quoi sert la démocratie directe. Et il part là-bas, il rentre en Suisse, évidemment, comme dans du beurre, parce que, bon, on n'était pas aussi armés que lui. Il commence à mettre des préfets dans les 11 ou 12...
cantons.
Il avait 17 à l'époque, ou probablement 17, 18. Il leur donne beaucoup de pouvoir, exactement comme le ministre de l'Intérieur aujourd'hui a dit, je vais donner de surpouvoir, ou bien l'ancien Premier ministre qui était là encore il y a 3 semaines en France.
Bérou de secours.
Il donnait des surpouvoirs aux préfets. Non. Donc il est arrivé avec ses préfets, il a mis un préfet partout, et là, le préfet et tout ça, ça a duré 5 ans, on a fait quelques centaines de morts, je crois, on a fait 300 morts, et on a reconduit, notre ami Napoléon l'a reconduit, parce que il disait de tourner à droite, on allait à gauche, il disait d'aller tout droit, on allait derrière, oui. Il disait de monter, on descendait, c'est-à-dire exactement le contraire, et il était écœuré, et il est parti de là en disant, je repars chez lui en reconnaissant la bravoure et la fidélité des Suisses, merci, tout en les méprisant. Voilà.
Mais le problème d'Napoléon, c'est qu'il méprisait beaucoup, parce qu'il disait beaucoup que les Anglais, c'était des boutiquiers.
Oui. Donc, oui, on n'était pas tous...
Vous étiez juste des paysans.
Bon, on n'était pas tous militaires. Je prends un troisième exemple pour aller plus vite.
Oui.
Je prends la neutralité de la Suisse le 20 mars 1815, c'était à Vienne, qui a été signée à Paris le 15 novembre, par là. C'était évidemment le traité de Vienne. Et le traité de Vienne, les gens qui étaient là-haut présents, c'est-à-dire il y avait la France n'était pas là, bien sûr.
Il y avait Talleyrand qui traînait dans les couloirs.
Il est venu à Paris, oui, mais je ne crois pas qu'il était à Vienne. Et c'était Metternich. Et c'est le tsar de Russie qui a dit on va laisser, écoutez-moi bien, un pays tampon entre la Russie et entre l'Autriche et la France et tout ça, on va laisser la Suisse comme pays tampon. C'est un peu comme Ukraine aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont dit bon allez les Suisses, on est d'accord. D'abord on vous demande de devenir neutre. Donc contrairement à ce que vous pensez, c'est jamais nous qui avons choisi la neutralité. La neutralité nous a été imposée à Vienne.
Mais ça vous allait très
imposée
bien.
Lourdement. On dit, bon, écoutez, je pense que vous soyez neutre et que vous serviez de pays tampon avec l'Autriche.
Parce qu'il faut se souvenir un petit peu que l'Autriche de l'époque, c'était quand même une énorme puissance.
Absolument.
Et la Prusse, ça représentait pas grand-chose. On a tous maintenant dans la tête en tant que Français que la Prusse était le danger. Mais pendant des siècles, pour la France, le danger, c'était l'Autriche-Hongrie, c'était les Habsbourg, c'était pas les Hohenzollern, il ne faut pas rigoler.
Non, c'était les Habsbourg.
C'était l'Habsbourg. Donc vous faites ça, vous devenez neutre, ensuite rapidement.
Rapidement,
vous avez les
imaginez
guerres.
Qu'on ait des populations à 65% allemandes, à 25-30% italiennes, à 15% françaises, les populations qui occupent la Suisse aujourd'hui. On a traversé la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40. Il n'y a jamais eu un heurt et tout ça. Et Dieu si comme ennemi pour les Français en Suisse, on avait deux pays qui étaient l'Allemagne et l'Italie, qui dans la dernière guerre étaient quand même des copains, eh bien tout ça, on a traversé tout ça.
Ce qui fait
et
que si on quand traversé, je traverse là, voilà.
C'est parce que nous étions une démocratie directe.
Direct, et que vous étiez neutre. Et quand je dis toujours...
Et que nous étions neutres,
oui,
absolument.
Ce qui m'intéresse toujours quand je vais en Suisse, c'est que si vous passez au milieu d'un village en Suisse, par rapport à un village français, il y a quelque chose qui n'est pas présent, c'est un monument aux morts.
Il n'y a pas de monument aux morts en Suisse.
Non. Ben, il n'y a pas eu de mort.
Non, 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 parce qu'il n'y a pas de guerre.
Mais voilà, il n'y a pas eu de guerre depuis 500 ans.
Oui, mais on va y venir. Mais, et là maintenant, le 29 ou 39, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pour vous dire qu'on a élu un général pendant la guerre, parce qu'on a fait la guerre, nous, la Suisse, quand même. On a préparé la guerre.
Vous aviez mis des troupes en
Allemagne. La 39. Nous n'avons pas de généraux. On n'a pas un général en Suisse actuellement, alors qu'on a une armée qu'on peut lever en 30 jours de 100 000 hommes, 150 000 hommes, de milices. Hein, et on n'a pas un général en Suisse.
Vous avez des colonels.
Aujourd'hui. Et les colonels.
Il est colonel.
Et
mais
le colonel
souvent...
qui le nomme, c'est la fameuse chambre dont on va parler tout à l'heure, le Conseil fédéral. C'est pas moi, je nomme un tel.
Non.
Voilà.
Voilà. Et il me nomme le colonel en chef, si j'ose dire, parmi
les colonels qui ont été dans la réserve.
Et le 15 avril 45, quand la guerre est terminée, qu'est-ce qu'il fait le général Guizan?
Il donne sa démission.
Non, il donne pas sa démission. Il rend ses étoiles et redevient colonel.
C'est
ça la démocratie directe.
C'est Saint-Sinatus qui retourne à sa charrue, quoi.
Ah oui. Et nous ne sommes pas ni l'ONU, on a mis 30 ans à rentrer à l'ONU.
C'est pas une bonne idée.
On a voté 3 fois, 4 fois, 4 référendums. Et enfin, on y est allé, mais on s'en mord les doigts un peu. Je ne vais pas répéter ce que dit le président des États-Unis. L'OTAN, nous ne sommes pas à l'OTAN, oui, bien sûr, et nous ne sommes pas à l'UE. L'UE, il y a 25 ans qu'on négocie avec l'UE, une multilatérale, et on ne... Non.
Tout ce que j'espère, c'est que...
Nous refusons d'y aller.
Ces négociations avec l'UE cesseront parce que l'UE ne sera plus là. C'est un peu de mes efforts secrets, si vous voulez. Que la Suisse sera toujours là, mais que l'UE sera plus là. Ce sera déjà un gros progrès. Donc, voyez, ça, c'est l'histoire de la Suisse. Donc, c'est un pays qui a progressé doucement pour rester, pour que chacun des habitants reste souverain. C'est-à-dire que jamais ils sont passés sous le contrôle d'un empereur, d'un roi, d'un dictateur, de... Le Suisse de base, si vous voulez, il est maître de lui comme de l'univers, si j'ose dire. C'est une citation de Corneille, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Alors maintenant, tout est parti des cantons, vous m'avez dit, de 3 cantons qui sont minuscules.
Absolument.
Donc on va passer, ça va peut-être apparaître sur votre écran, sur ce que c'est exactement cette histoire des cantons, parce que ça me laisse rêveur, moi. Donc c'était un petit peu l'équivalent des provinces en France.
C'est un peu, un peu. Mais beaucoup plus évolué. C'est-à-dire que chaque
plus de
canton
pouvoir.
Pouvait frapper sa monnaie et peut toujours, à l'heure qu'il est en 2025, frapper sa monnaie.
Sans blague.
Nous avons toujours le droit dans les cantons, le canton de Vaud, de frapper le Vaud. Le Vaud, c'est l'argent du canton de Vaud. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Vous n'irez pas très loin. Mais vous savez qu'il y a eu, je crois, je ne peux pas l'affirmer, je crois qu'il y avait... Au moment où on est passé au franc suisse, c'est-à-dire à partir de 1850, on a eu le franc suisse, on avait 6 000 monnaies en Suisse.
C'était vrai.
Parce que l'évêché émettait sa monnaie.
Et
la ville, les banques, bien sûr.
Les banques,
mais la ville de, je sais pas quoi, la ville de Zurich, c'est le Zurich, je sais pas quoi. Bon, donc, c'est tout.
Donc,
mais
on
peut toujours frapper. Et d'ailleurs, on peut toujours aussi monter une armée, hein. On a toujours l'autorisation de monter une armée. Si le canton de Vaud veut attaquer le canton du Valais demain matin, il a le droit, personne ne l'interdira, de monter une armée pour attaquer le Valais.
Et si le canton de Vaud monte une armée pour attaquer Lyon?
Je pense qu'on sera au centre de la place de Lyon avant que vous n'ayez réuni 3-4 personnes.
C'est pas possible, non, je veux dire. En plus, le Lyonnais.
Parce que nous sommes des milices. Nous sommes des milices et nous défendons notre territoire.
Donc. C'est-à-dire que,
oui, même vous... moi, s'il y avait quelque chose en Suisse, honnêtement, vu
vous
mon
iriez.
Vantage, j'irais demain matin, bien sûr.
Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans le fond, vous considérez l'armée comme un outil pour défendre le territoire, pas pour attaquer les autres.
Ah, mais jamais.
Pour défendre le territoire.
Mais évidemment, parce que là, vous me parlez de ça, là, maintenant. Depuis 210 années, neutralité armée, la Suisse, donc vous voyez, ça remonte à 1815... 734 années de démocratie, depuis 1291 à aujourd'hui, sans morceau d'autre chose.
Il n'y a jamais eu de guerre civile en Suisse. Les Allemands n'ont pas essayé de mettre la guerre civile aux Français.
Non, pas du tout. On est assez grands pour faire la guerre nous-mêmes. Et il y a eu la guerre. C'est la guerre, heureusement, qui a été... j'aime beaucoup le raconter parce que c'est une guerre civile.
Oui.
Et en même temps, une guerre de religion.
Ben normal, oui, c'est parce que c'était au 15e, 16e siècle.
Donc c'est pas du tout une guerre contre les autres, pour une fois c'était une guerre intérieure. C'est pour ça que je dis que neutralité armée et qu'il n'y a pas eu de guerre depuis, sans guerre depuis 510 ans, c'est 510 ans à l'extérieur du pays.
Oui,
hein, on est allé
parce qu'il y a eu des échauffourées
à l'intérieur.
On est
allé à Marignan, on a fait la paix avec la France depuis 1515, tout le monde est bien d'accord que maman avait envoyé François Ier là-bas, et j'ai vu qu'il cherchait de l'argent pour faire Chambord aujourd'hui, pour l'aile de Chambord qui s'appelle François Ier.
Oui, mais c'est vrai que Chambord,
les Suisses ne donneront pas l'argent pour l'aile de Chambord.
C'est bien triste.
Parce que lui, il avait 21 ans quand il est parti là-bas, et il devait s'aguerrir, Et c'était un peu comme les gens achètent aujourd'hui de la volaille, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire des faisans. Et il avait commandé 30 000 Suisses pour faire...
Vous savez ce qu'on disait en France pendant très longtemps, pas d'argent, pas de Suisse. C'est-à-dire que si vous aviez affermé à l'extérieur des tas de troupes suisses, il en reste quelques-uns d'ailleurs au Vatican, mais si vous les payiez pas...
On était des milices professionnelles. On était payés.
Vous étiez d'horribles mercenaires.
Mais attention, parce que on a oublié de dire que la Suisse, c'est un rocher. C'est un 42 000 km² de mauvais. Bon, il y a 25 000 de plaine. Mais le reste, c'est du rocher. Mmh. On n'a pas de sous-sol. C'est-à-dire matière première, zéro, zéro, égale zéro. On a dû vendre nos familles.
Nos familles, et puis depuis, vous avez trouvé qu'il valait mieux vendre des produits que vendre des soldats.
Donc après, c'est pas plus mal. Donc, je suis là, et on est non membre de l'OTAN et de l'ONU, je vous l'ai dit. Oui. Les trois cantons, je vous l'ai dit, cantons d'origine. Et je voulais vous dire que, c'est à peu près tout, 42 000 km².
C'est-à-dire un peu, ça fait 8% du territoire de la France, quoi, à peu près. Nous, on est à 500.
Oui, 8%, absolument, 8%. Voilà.
Donc, vous avez ces 26 cantons. Alors maintenant, ça, on va le mettre...
Qui sont arrivés, qui ont grossi.
Qui ont grossi. Alors ça, on va le mettre sur l'écran, parce que c'est absolument essentiel. C'est les pouvoirs, comment les pouvoirs sont exercés. Oui. Parce que je trouve...
Les pouvoirs, c'est un grand mot.
C'est
une négociation.
C'est une négociation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir où se situe l'exécution des... Et alors, vous voyez, vous avez... vous verrez ça sur l'écran, bien sûr, là je le montre.
Oui.
Mais vous avez en haut à droite, là, ce que fait la commune. Donc vous voyez,
qu'ont décidé de faire elles-mêmes.
Elles ont décidé de faire elles-mêmes.
C'est pour ça que je ne veux pas parler de pouvoir.
Oui, elles ont décidé de faire elles-mêmes.
Le pouvoir, elles l'ont parce que ce sont les premières qui décident. C'est les communes, en bas.
Alors si elles ne veulent pas faire quelque chose, elles peuvent envoyer le bébé, si j'ose dire,
au-dessus.
Au canton. Où il y a un certain nombre de trucs qui sont exécutés par les cantons, et on verra lesquels. Et puis vraiment, si vraiment ça emmerde tout le monde, ça passe à la fédération, des trucs comme la diplomatie, le trésor, ou des choses comme ça, ça passe là-haut.
Absolument.
Donc, ce qui est étonnant quand
ça reste là-haut. Personne n'en a voulu. La commune ne veut pas prendre la responsabilité des affaires extérieures du pays, je crois. Les cantons n'en veulent pas non plus, donc ça remonte en haut, et alors là, oui.
Et vous avez un type qui, dans le fond, est le ministre des Affaires étrangères suisse, quoi.
Ah, il y en a un, bien sûr.
Mais vous le connaissez son nom? Oui, c'est rigolo, il n'y a personne qui connaît le nom d'un ministre suisse.
Peut-être Monsieur Rushdie.
Rushdie? Non, vous rigolez.
Nous avons un des sept ministres en place aujourd'hui qui s'appelle Monsieur Rushdie. Je pense
parce que
c'est...
je lui ai dit, vous rigolez, parce que c'est le plat national suisse, c'est un plat de pommes de terre.
Ça
très bien,
oui,
d'ailleurs.
Je suis navré pour lui, mais c'était pas je ne faisais pas de jeu de mots pour lui.
Non, je me disais, c'est une blague.
Mais non, mais pour bien expliquer ce que c'est vis-à-vis des communes qui s'intéressent à la démocratie directe. Absolument. Ce sont d'abord les communes qui décident quel niveau elles veulent donner à leur investissement. Donc, en ayant fait d'abord la liste des tâches qu'elles veulent garder à l'intérieur de la commune, et donc le montant d'argent qu'il va falloir demander aux habitants de la commune. Parce que si c'est destiné à la commune, il n'y a pas de raison que ça aille se promener. Ce sont les gens qui habitent la commune qui votent les budgets qu'ils ont décidé de réaliser, les tâches qu'ils ont réalisées. Donc, je vais vous lire des tâches. Je vais vous lire des tâches, la garderie d'enfants primaires, secondaires. Je suis sûr que s'il y a des Français qui regardent ça et qui sont même maires de leur village, sont là, les soins externes, les soins hospitaliers, les transports publics au sein de la commune, l'urbanisme, la police de construction, la protection du paysage, etc., la police du feu, tout ça, toutes les communes ont dit « oui, tout ça, on va garder ». Et donc, on lève l'impôt qui correspond à ces tâches. Alors, on lève l'impôt d'une façon directe, on en parlera au moment des impôts,
oui.
Et d'une façon indirecte, c'est-à-dire, c'est nous, avec le canton, je vous expliquerai tout à l'heure, qui levons les impôts sur les revenus et les impôts sur les sociétés, c'est nous qui les levons, parce que c'est pas du tout la Confédération qui les lève, les impôts.
Ça se passe, les impôts sur les sociétés, c'est au niveau du canton et au niveau de la commune.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est bien?
Donc ça, c'est ramassé par la commune et ramasse l'argent de leurs propres entreprises qui sont sur leur... Mmh. Et elles envoient un pourcentage, aujourd'hui qui est de 78%, de cette masse d'argent qui remonte
au canton,
au fédéral. Donc c'est le contraire.
Mmh, oui.
Et je voudrais qu'à ce moment-là, vous pensiez toujours, si vous vous intéressez à la démocratie directe, que vous pensiez toujours bas en haut, de bas en haut. Voilà. Alors tout le monde est surpris aujourd'hui que ce sont les communes et les cantons qui lèvent les impôts sur les revenus des gens et les impôts sur les bénéfices des sociétés. Non, c'est comme ça. Et on envoie au contraire l'argent. Comme ça, on
pour faire tourner les gars en haut, quoi.
Comme ça, on est sûr qu'ils ne peuvent pas dépenser plus.
Voilà.
On envoie l'argent à la Confédération au troisième étage. Voilà.
Donc ça, c'est très bien. Alors, les cantons, qu'est-ce qu'ils font?
Ah ben, les cantons, ils font au-dessus. Je vais vous citer quelque chose sur les cantons, les voilà. Ils font la protection de l'environnement, la protection des paysages et du patrimoine, l'aménagement du territoire, le transport et routes. Alors, à leur niveau, les autoroutes, c'est au niveau de la Confédération, et les routes nationales, c'est au niveau des cantons. L'approvisionnement en eau et en énergie, les cantons.
Ah, c'est bien, ça.
Bah, je prends un exemple. Par exemple, je sais pas, il y a des pays où c'est par exemple le président du pays qui décide, j'arrête le
nucléaire.
Tel truc, j'appelle, oui. Là-bas, on peut pas arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons des centrales nucléaires. Et je vous dis tout de suite que nous avons été les premiers en Europe et les deuxièmes dans le monde à avoir une centrale nucléaire. La première étant en Inde. Et nous, donc, je vous parle de ça, on est en
1958,
voilà. Et donc, il est hors de question que quelqu'un puisse arrêter le nucléaire. Le nucléaire en Suisse, mais comme les barrages, c'est-à-dire toute l'énergie, appartient aux 26 cantons et laisse 15% à la Confédération. Donc, la Confédération et les 7 ministres qui sont là, c'est pas leur problème. Et les 80 cantons décident de ce qu'ils vont faire de l'énergie. Ça, c'est la démocratie directe. Vous vous saisissez?
Ben, complètement.
Vous voyez à quoi je fais allusion?
Mais bien entendu.
Non.
Si. Je vous signale que nous, qui avons un système nucléaire extraordinairement performant en France, qui est le cas, les gens qui nous gouvernent du haut ont réussi à faire perdre 23 milliards d'euros l'année dernière à EDF. Pas envisageable. Je sais pas comment ils y sont arrivés.
Moi, je connais pas la France, alors je sais pas.
Non, vous avez raison, c'est pas un sujet.
Alors après, la santé des hôpitaux.
Oui, cantonal.
Je prends le Covid, bien sûr. Je prends le Covid. Le Covid, évidemment, tout d'un coup, c'était le 17 mars, quoi, de mémoire, 17 mars 2020. Donc vous avez la Confédération, les communes en bas,
les cantons.
La Confédération et les cantons là. Et évidemment que les hôpitaux dépendent des cantons. Donc la gestion des cantons, la construction, etc., etc. Et en aucun cas, évidemment, la Confédération. Et on a demandé, puisqu'on devait faire des vaccins, etc., etc., combien il y a de lits disponibles, etc., sur le doigt. La Confédération était incapable de vous donner le chiffre des lits, combien il y avait de lits en Suisse, des lits d'hôpitaux, en un jour, enfin en zéro jour, un jour et plusieurs jours, parce que c'est comme ça, c'est classé chez nous. Si vous restez un jour, c'est bon. Si vous restez ça, c'est évidemment, on rentrait le matin et on sortait le soir, il n'y a pas besoin de lit. Et si vous restez plusieurs jours, évidemment, c'est des séjours. Eh bien, en trois jours de temps, on a fait une demande aux 26 cantons. Les 26 cantons se sont réunis, par téléphone, et dit, est-ce qu'on est d'accord de communiquer? Oui, on communique. Et ils ont communiqué leur nombre de lits qu'ils avaient disponibles, utiles, blablabla, là, et ils ont fait une consolidation en trois jours pour le compte du ministre qui s'occupe de la santé en Suisse. Mais il n'avait pas les chiffres. Donc si on dit ça à d'autres gens, ils vont dire oh, c'est nul. Non, il n'a rien à voir là-dedans.
Bien non.
C'est pas son problème. Voilà.
Bon, ça me paraît une excellente idée. Et alors maintenant, une fois que tout s'est fait, qu'est-ce qui reste au pauvre gouvernement central? Imaginez que vous ayez l'ENA en Suisse. Où on mettrait nos énarques, là, tout en haut à gauche, vous savez?
Eh bien,
qu'est-ce qu'ils feraient?
Il y avait un ENA dans le temps, un équivalent d'ENA, parce que les gens avaient trouvé que c'était pas mal en Suisse. Et je crois une dizaine d'années après, ils avaient disparu. Et maintenant, l'ENA suisse, c'est un petit département de l'UNIL, c'est-à-dire de l'Université de Lausanne.
Donc où il y a une formation...
Une formation au public, à la gestion du public.
Qu'est-ce que fait les fédérales? Parce qu'avec tout ce que vous
avez parlé... Ah, le fédéral, il a les 7, on va en parler tout à l'heure.
Oui, on va parler maintenant. Il y a 7 ministères, alors.
Il y a 7 ministères, absolument.
Il n'y en a jamais plus.
Depuis l'origine. Ah, et jamais plus, pourquoi faire?
Oui, pourquoi faire, c'est une très bonne question. Alors, dites-moi qui sont ces 7 ministères, si vous vous en souvenez.
Ah oui, bien sûr, les 7, je vais vous le dire. Vous savez que je les connais par cœur, mais je peux vous le dire, je les cherche.
Alors attendez, il y a prestations individuelles, prestations individuelles, organisation des...
Non mais les sept, c'est les finances, vous avez les affaires étrangères, vous avez justice et police.
Justice et police.
Quoi ? Justice et police, c'est un seul ministère. Là, vous l'avez voulu, vous me l'avez demandé, vous l'avez.
Oui, un seul ministère.
Justice et police, moi, non, quoi, je trouve que ça marche correctement encore.
Ben, il se parle.
En Suisse, oui, il se parle au moins. Oui, parce qu'il se parle à lui-même. Justice et police, ensuite, on a la recherche et je sais plus quoi. Ensuite, vous avez le transport et ensuite, vous avez l'énergie. Enfin, voilà à peu près les sept ministres, c'est-à-dire ce que personne n'a voulu.
Ou qui était trop gros, etc. Bon, alors maintenant...
Ou trop important pour le niveau.
Trop important au niveau. On arrive, donc on a ces sept ministres. Et alors vous allez m'expliquer, parce que là, on a compris un petit peu que ça se passait par des votes locaux, etc. Bon, c'est très bien.
Oui.
Maintenant, quand vous arrivez au niveau fédéral, expliquez-moi comment ça marche, parce que vous devez avoir des assemblées, des ministres et tout. Donc, alors on est à la page 17 ici, qu'il faudra mettre sur le...
Oui, c'est là.
Ah bon, alors, on a mis à droite la Suisse,
oui,
et à gauche la France. Mais alors, on ne regarde pas la France.
Non, on regarde que la Suisse.
On regarde que la Suisse, donc vous oubliez le côté gauche français.
Non, mais je vous ferai un tableau suisse.
Il faut, je vous ferai un tableau suisse, mais ce n'est pas la peine. Enfin, on va regarder que le côté droit.
Vous me direz.
Vous, ce n'est pas la peine, non. C'est très bien comme ça. Donc, alors, vous me expliquez comment ça marche pour que cette espèce de souveraineté individuelle soit maintenue. Même si vous avez des hauts fonctionnaires, même si vous avez des génies qui arrivent, qui sont élus, etc., même si vous avez un, si vous avez un Napoléon suisse.
Si vous. Ça va être très gros ce que je dis, hein, très gros, mais c'est pas grave. Si vous sortez la tête en Suisse.
On vous la coupe.
Elle est coupée immédiatement.
Oui, oui.
Alors, comment ça se passe dans une réunion? Eh bien, on est 12 et il faut nommer un conseiller municipal à quelque chose. Monsieur Mott se lève, je me lève. Moi, je propose Monsieur Gave et je me rassieds, etc., etc., etc.
Et Monsieur Gave, il dit mais ça va pas la tête.
Il a droit, mais vous dites rien. Vous restez à votre place.
Oui.
Et puis chacun donne son avis comme ça, se lève, mais il dit pas moi je suis.
Non, non.
Il dit moi je propose Monsieur Gave. Puis après, ça va être M. Gave qui va se lever, qui va dire « Moi, je propose M. Machin, et moi, je me propose... » Donc, c'est jamais « soi ». C'est jamais « je suis candidat à ». Oh là là !« Je suis candidat à », c'est un terme que en 45 ans, j'ai pas entendu.
Il se trouve que vous avez été choisi par vos pères pour effectuer ce boulot.
Évidemment.
Mais vous l'avez pas... Mais ça vous a été quasiment imposé.
Non, vous pouvez le refuser.
Oui, vous pouvez le refuser.
Mais... Oh, moi, j'ai quelqu'un qui a été appelé. Je crois que l'histoire est vraie, parce que je ne me souviens plus très bien. On fait donc un conseil fédéral, le conseil fédéral, sept personnes au conseil fédéral, et l'Assemblée fédérale, donc les 200 députés plus les 48 au Sénat, bon, ça fait 248, 247, bon. Et ils élisent quelqu'un, et la personne pensait qu'elle devait rentrer à la maison, donc elle était repartie avec le bus, elle avait repris le train à la gare de Berne, et elle était en voyage pour en rentrer chez elle à la maison. Et là, on l'a appelée, on lui a dit, mais reviens, t'as été élu au Conseil fédéral, c'est-à-dire un des sept ministres. Ah bon, moi, je fais demi-tour et je reviens. Voilà, c'est comme ça.
Écoutez, c'est charmant, mais
c'est charmant comme histoire.
C'est charmant comme histoire.
Mais l'histoire est vraie, hein.
Donc, vous avez le Conseil des États, et alors, là, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, vous avez les conseillers et les sénateurs, hein.
On a, non, c'est toujours des conseillers, mais c'est des conseillers nationaux, c'est l'Assemblée nationale.
Oui. Et qui est élu au suffrage.
Alors, à la proportionnelle.
À la proportionnelle complète.
Ah, bah, complète, bien sûr. Ah là là là.
Donc, oui. Vous avez 200 gars qui sont élus à la proportionnelle.
Absolument.
C'est-à-dire que vous avez un paquet de Suisses allemands là.
Bah, tout est à la proportionnelle. Alors, ça, il fallait déjà parler du bicamérisme, et nous sommes au bicamérisme là maintenant. Donc, on peut dire un mot. Alors, le bicamérisme, ou bicaméralisme, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle la démocratie de concordance. C'est-à-dire que les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat en France, mais le Conseil national et le Conseil des États en Suisse, ne sont pas élus de la même façon. Pourquoi ? Parce que je reviens à ma guerre de 1847. Les cantons catholiques qui avaient déclaré la guerre contre les cantons protestants, et c'est Dufour, c'est un certain Dufour qui a fondé la Croix-Rouge avec Dunan plus tard, qui était un ancien de promotion 1807, parce qu'il aimait beaucoup, Napoléon, de Lix à Paris.
Ah, c'est un polytechnicien.
Il revient, oui, c'est un polytechnicien.
Tout s'explique.
Mais qui est vite revenu dans son pays, qui a été appelé par les protestants. Et il a été appelé par les protestants pour combattre les catholiques qui étaient en train de vouloir faire la guerre contre les cantons catholiques. Bon, il a préparé tout ça, mais je vais faire une histoire courte. Donc, pour finir, évidemment, il avait beaucoup plus de soldats et tout ça. Il a fait 90 morts dans les premiers 3 jours. Et au bout de 8 jours, c'était terminé, tout le monde était en place. Mais les petits cantons... Il n'y avait pas que la religion qui les ennuyait, c'était des petits cantons, Schwitz et tout ça, c'est des petits cantons. Ils ont dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une deuxième chambre ? Je reviens au bicamérisme.
Comme aux États-Unis, où il y a 2 élus par État.
Et il y a 2 élus par État.
Enfin, par canton. Donc,
par canton, oui, par État, excuse-moi,
donc
par canton.
Ça, c'était la Constitution américaine, où vous avez le Sénat.
Ah, mais
et
on
la
a copié, mais je ne nie pas.
Oui, c'est
on a
bien.
Copié 1797 ou 87, je ne sais pas, États-Unis, oui. Mais oui, mais comme on a copié nous sur la France après au moment de la au moment de le roi a été raccourci ici en France, on a refait autre chose et tout ça. Donc on vous a copié et on a pris, j'espère, le meilleur. Et donc on a fait une deuxième chambre dans laquelle il y en a que 2. Il a dit, écoutez, nous dans le Conseil national, on est à la proportion. Alors, il est bien évident que Zurich a 17, et maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il en a 21. Et vu sa population, il a 21 députés. Moi, je suis Schwitz, et j'ai 1 député. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux absolument pas défendre mon droit. Mais, on crée cette deuxième chambre, bicamérisme, on lui donne 2 députés, donc il y en a 2 à Schwitz, mais 2 à Zurich, et les 2 ont le même pouvoir.
C'est-à-dire que la
le même le, pouvoir, ça
le
veut
Sénat
dire
peut bloquer la
même pouvoir et même compétence. Vous voyez ce que ça veut dire?
Non, ce que vous dites est très important là.
Mais comment c'est très important? C'est même compétence.
Même compétence, c'est-à-dire qu'il faut trouver un consensus entre les 2 chambres.
Mais évidemment, car au bon près et à la virgule près,
c'est les mêmes compétences.
Ils vont avoir le texte qui va passer une fois chez eux en premier et une fois sur 2.
Et s'il y a blocage, qu'est-ce qui se passe?
Pardon?
S'il y a blocage, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, pourquoi? Parce que ce sont les députés qui ont nommé les ministres. N'oubliez pas ça.
Oui.
Là, on en vient, par exemple, parce que je pense que vous faites allusion à certains blocages dans d'autres pays, mais là-bas, il ne peut pas y avoir de blocage. C'est le souverain. Le souverain a nommé des députés. Les 2 chambres font 247 députés. 247, je crois, oui. 248. Et c'est eux qui élisent ensuite les 7 conseillers fédéraux et qui élisent parmi les 7 conseillers fédéraux le président de,
qui dure un
de
an.
La Confédération. Un an.
Alors ce qui est amusant dans ces 7 conseils, c'est que le type qui est nommé au Conseil fédéral, là-haut, pour être un ministre, il ne sait pas quel ministère il va avoir au départ. C'est eux qui discutent entre eux qui prendra quoi.
On les nomme pas à un poste, on les nomme même à une fonction. La fonction, il a le droit d'accepter et il a le droit de refuser, hein.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous nommez 7 gars là-haut qui ensuite, qui décident entre eux, toi, tu seras.
On leur dit pas, absolument, on leur dit pas, tu vas être toi aux finances et toi ci, toi ça. Vous devez ensuite vous réunir tous les 7.
Et vous mettre d'accord.
Et vous mettre d'accord et d'avoir un consensus qui est le maître mot de la Suisse. Consensus. Donc on discute et voilà. Et
c'est-à-dire si je prends une courbe de Gauss, vous savez l'espèce de courbe en jardin de gendarme là.
Bien sûr.
Vous faites tous vos efforts.
Je crois que
vous
suivez Napoléon.
Vous faites tous vos efforts pour que les décisions soient prises toujours dans le fond par ce qui satisfait les 2 tiers, mais pas les bords
oui.
N'ont aucune influence.
Alors l'explication est très simple, vous allez comprendre, puisqu'on part du bas et on va vers le haut, donc c'est d'abord le peuple, le souverain. Qui élit les députés, vous êtes d'accord? Et là, vous avez, bon, j'oublie les 40% ou 50% qui n'ont pas voté, mais les restes, 50% ou 45%, pour avoir un chiffre différent, les 45% qui ont voté, ils représentent 100% des votants. Bon. Mais ils représentent aussi toutes proportion gardée, la même proportion que le peuple, puisque c'est le souverain, le peuple souverain, qui élit ses 45%. Et c'est, vous retrouvez donc le même taux de 45%, mais en fait, c'est 45%, ça doit être 100%, qu'on soit bien d'accord, on se comprend. Et que vous retrouvez forcément dans les deux chambres, que vous retrouvez dans les sept conseillers fédéraux, et que vous retrouvez en haut, puisque c'est toujours eux qui élisent, eux qui ont 100%.
Alors vous avez quelque chose de rigolo, c'est que dans la façon dont vous votez pour les sept, c'est donc le parti le plus important, mettons Zurich, il peut en élire deux, et puis le parti suivant, qui est peut-être Genève, j'en sais rien, il peut en élire deux, le troisième il peut en élire deux, et le quatrième parti il en est un. C'est-à-dire que vous évitez que parmi ces sept soient élus par le même parti.
Alors, 1848, nous avions une idée géniale. Et on prenait le premier parti, deuxième parti, troisième parti. Le premier parti passait aux élections. Et les élections, ils votaient pour les sept ministres. Donc, il y avait le parti qui s'appelait le PLR en 1848. Il est toujours là, le PLR. Et généralement, dans les trois ou quatre premières chambres, c'est-à-dire 4 fois 4, 16 ans, 20 ans à peu près, parce que c'est tous les 4 ans. Vous aviez donc
les
élections qui avaient 55%.
Ouais.
55%, ben, évidemment que... Premier vote, c'était eux. Donc ils avaient 7 PLR.
Qui étaient ministres,
parce que c'est toujours le...
C'était la dictature, quoi. Pas vraiment.
Ah ben là, si vous dites ça ici dans certains pays, vous allez vous faire... mais c'est ça.
Ouais, non, mais ça
nous ne voulons pas de parti majoritaire.
Voilà, c'est ça.
Nous n'en voulons pas. Il y a 11 partis en Suisse. Nous voulons garder 11, 12, 13 partis. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Et c'est rare qu'on trouve une formule comme ça, parce que ça fait très léger ce que je vais vous dire. Ça s'appelle la formule magique. Bon. Alors, la formule magique, j'aime pas beaucoup le terme, mais enfin, on l'appelle comme ça, et c'est pas un mot suisse, véritablement. Et on a dit, le premier parti peut nommer deux ministres, conseillers fédéraux, le deuxième parti, deux, le troisième parti, deux, le quatrième parti, un. Deux, 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 un, sept, donc vous avez les sept, qui sont sur les quatre premiers partis. Et ça, c'est depuis maintenant très très longtemps.
150
ans. Oui, 150 ans. 200. Et on l'a conservé, c'est ce qu'on appelle la formule magique.
Donc vous avez les sept ministres qui, dans le fond, viennent d'horizons politiques différents.
Ah oui.
Et qui sont obligés de se mettre d'accord.
Ah, obligés. Obligés, sachant que le président de la Confédération n'a aucun pouvoir. Zéro pouvoir.
Si, il va recevoir les dignitaires étrangers à l'aéroport.
Ah oui, 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 mais le pouvoir à la votation et tout ça.
Non, pas de nomination, rien du tout.
Ah, rien, il n'a pas de pouvoir.
Donc, vous voyez, j'essaie d'expliquer ça, c'est quand même un système très intéressant parce que à aucun moment le souverain, c'est-à-dire André Müller à Genève ou je sais pas quoi, ne perd sa souveraineté. Il est toujours... Alors maintenant, imaginez que c'est les conseillers plus les sénateurs là décident de faire une loi.
Non, imbécile. Les conseillers c'est pour les deux.
Oui.
Conseiller national et conseiller.
D'accord. Imaginons que les 247 conseillers fassent passer une loi qui soit imbécile et qui ne plaise pas au peuple suisse.
Oui.
Alors qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'intervient le référendum.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un type qui lève la main et qui dit je vais contrer cette décision que vous avez prise. Donc vous pensez bien que déjà les députés qui ont dû voter ça, enfin la Chambre fédérale qui a dû voter ça, déjà les deux, bon, ils se sont mis ensemble, ils ont travaillé, ils savent qu'ils peuvent être repris par un référendum derrière. Donc déjà, ils tempèrent, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas tous les jours des référendums. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, mais là, il est bien évident qu'à ce moment-là, vous attaquez la loi, 50 000 signatures en 90 jours, je crois.
Il y a combien de Suisses en tout?
On est 5 millions 800.
Donc il vous faut...
Et on est 9 millions d'habitants.
9 millions d'habitants, donc il vous faut quoi? 2% des gens qui... des Suisses qui signent, ça suffit à appeler un référendum
Sur 5 millions 50 000... Non, 50 000.
50 000, 500 000, 5 millions. Millions, ça fait 1 million, 1%.
5 millions, ça fait.
5 millions, 500 000, 540, 50 000, vous avez besoin de 50 000 signatures.
Voilà.
Donc il faut 1%.
1%.
C'est pas beaucoup, mais enfin, c'est très bien.
Ah, sur les pays où il faut beaucoup plus.
Mmh. Ah, ben, bien sûr, en France, il faut. Et puis, en plus, il faut que les enfin, ouais, on va pas parler de la France.
Il faut 4 800 000.
4 800 000, plus 120 députés, plus je sais pas quoi d'autre, enfin, n'importe quoi. Enfin. C'est n'importe quoi.
Alors, j'ose pas vous demander combien. Bon. Tandis que nous avons 677. Nous avons eu 677 votations depuis 1850.
677.
Fédéral. Parce que vous avez la même chose au niveau des communes. Ben, on va y venir après, peut-être.
Oui. Mais c'est la même chose. Si le conseil municipal décide des trucs qui ne plaisent pas, pas un référendum.
Ah, vous avez et trois niveaux de...
Est-ce qu'il peut y avoir un référendum pour virer un conseiller que les gens n'aiment pas?
Non.
Il n'y a pas de référendum de rappel pour des élections?
Non. Il n'y a pas de référendum, mais il n'y a pas eu non plus...
Non, il n'y en a pas. Mais en même temps, si vous voulez, la façon dont vous gérez vos élections, vos élus, en quelque sorte, il n'y en a jamais aucun qui a un pouvoir tel que vous avez envie de le révoquer, parce que dans le fond, bah, c'est pas bien la peine.
Moi, il n'y a jamais eu aucun problème depuis 1848.
Oh, c'est ça, donc.
On n'a jamais fait sauter la. Personne n'a le droit de faire sauter l'Assemblée et tout ça. C'est la responsabilité que vous avez eue de nommer des gens, et s'ils ne sont pas bien, c'est vous, députés, qui l'avez mis en place, hein.
Oui.
Donc vous vous mordez d'abord les doigts chez vous, hein, oui, en regardant la télévision, avant d'accuser qui que ce soit.
Oui, c'est-à-dire que c'est votre responsabilité.
C'est vous qui êtes... C'est 246, hein. Bien sûr, parce que c'est, il y a 246
conseillers
dans la Chambre fédérale. Et bien c'est vous qui avez nommé le président, c'est vous qui avez nommé les 7 ministres. Alors, vous pouvez accuser personne d'autre. Hein.
Bah, ouais, c'est très embêtant votre système, parce que finalement c'est un système de responsabilité individuelle. Bah, et vous pouvez pas dire c'est pas de ma faute, quoi.
Ah, vous pouvez pas.
C'est embêtant, ça, non?
À toujours rejeter sur les autres, oui.
Oui, c'est quand même beaucoup plus facile de dire c'est la faute des riches ou c'est la faute des...
Ah, oui.
Donc, vous avez bâti un système qui, dans le fond, favorise la liberté, la liberté individuelle tellement ça, mais la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, je vais pas gueuler parce que c'est moi qui suis responsable au départ, quoi. Donc ça, c'est, vous voyez,
c'est pour le bicamérisme.
C'est pour le bicamérisme. C'est une très bonne idée, et la façon aussi dont vous pouvez rejeter une loi.
Rejeter une loi, oui.
Vous pouvez tout à fait voter contre.
On a le droit de la rejeter, on a le droit de l'amender, et le gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée, peut donner une alternative. Voilà, donc on travaille autour de
et
ça.
Et alors j'aimerais,
oui,
que maintenant on aille à la votation,
et
que vous montriez, puisque vous l'avez amené, vous avez la gentillesse de l'amener, une enveloppe de ce que les gens reçoivent quand il va y avoir un référendum.
Je trouve
que c'est très bien que vous nous montriez ça, parce que les gens disent comment ça se passe.
Eh bien, je vais vous dire.
Racontez-nous comment ça se passe. Il y a un type qui a présenté un référendum, donc vous allez recevoir un papier où on mettra le pour et le contre.
Je vais vous dire, vous allez voir.
Parce que c'est très intéressant.
Je vous ai pris je vous ai écrit du 24 novembre 24. Hein, c'est pas grave. Alors, 29 novembre 20, il y avait 4 sujets. 1, 2, 3, 4.
Parce que vous pouvez voter pour plus d'un référendum à la fois.
Ah oui, 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 on fait 4 référendums en même temps le même jour.
Ah oui, c'est normalement bien. Attendez, vous avez un référendum l'étape de sur les routes nationales, modification du code des obligations, oui, d'accord, modification du code des obligations, droit du bail, modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie, tout ça c'est des trucs.
Voilà, on a les 4 bulletins ici.
Oui.
Où on a juste à mettre oui ou non dans les 4 carrés, ou si vous devez, vous déchirez.
Et là-dedans, on vous explique les tenants et les aboutissants.
Vous mettez ça dedans, et là-dedans, le souverain reçoit un document pour les 4 documents de... Ou une page. 67 pages. Il y a 67 pages
d'explications
sur les 4.
Et qui écrit ces explications?
Pardon?
Qui écrit ces explications?
Ah, c'est le gouvernement, le gouvernement, et surtout le...
Le gars qui présente le référendum.
Ah oui, 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 les gens qui présentent, oui, oui, bien sûr. Et il est écrit absolument en version finale. Mmh. C'est pas un projet de, je sais pas quoi, non. À la virgule près, c'est le document sur lequel vous devez voter. Donc c'est pas oui, non, on est d'accord sur le principe de...
Et vous ne pouvez pas voter contre parce que vous n'aimez pas le conseiller. Quoi. Vous votez pour le projet et pas pour virer un gars.
Généralement, ça peut passer dans les chambres avant. Et quand ça passe dans les chambres, vous avez les résultats des votes préalables déjà qui sont là. Et le gouvernement a fait... l'Assemblée a décidé tant et tant, donc ça s'est marqué que pour ce vote-là, il y a eu 145 oui contre 42 non
à la question. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'ont fait les gars qui connaissaient le sujet. Quoi.
Alors, la personne qui s'est pas très bien dit, tiens, le gouvernement a dit ça, bon, moi, je suis bien d'accord. Et il a tout le temps et tout le loisir de lire ça, parce que vous le recevez à peu près 3 semaines avant de le renvoyer. Donc vous avez le texte.
Et vous l'envoyez par la poste.
Vous avez l'enveloppe. Alors, ici, vous le direz à personne, mais regardez, là, c'est mon adresse, à moi. Vous le renvoyez à l'envers, vous avez l'adresse de la commune, et il y a la fenêtre ici, donc vous envoyez, c'est la commune là, et vous renvoyez les bulletins dedans, et vous remettez tout ça dans la boîte aux lettres, et il y a à peu près 90% des gens en Suisse qui votent par correspondance. Voilà.
Ben écoutez, alors, bon, qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Ben, il nous reste à dire que...
Ben, que du bien.
Que du bien. Et alors, je voudrais maintenant terminer avec quelques remarques sur l'économie suisse. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous n'avez pas de matière première.
Aucune matière première.
Voilà. Vous avez une agriculture, il y a des tas de... Dans ce document rouge, là, le livre, vous voyez comment ils traitent leur agriculture, c'est très malin aussi. Et ce qu'il y a d'admirable en Suisse, si vous voulez, c'est que vous avez le niveau de vie le plus élevé du monde, la monnaie la plus forte du monde depuis très très longtemps, le SMIC en Suisse, qui n'existe pas vraiment, mais il est aux alentours de 4000 euros, c'est-à-dire que c'est quand même mieux que chez nous.
Et deux choses fausses. C'est le SMIC n'existe pas en Suisse.
Mais l'équivalent, le salaire le plus bas, c'est plutôt aux alentours de 4000, quoi, d'après ce que j'ai compris. C'est ce qu'on m'a dit, puisque j'ai des amis qui sont allés en Suisse.
Alors, les cantons ont le droit de décider s'ils veulent décider un SMIC.
Voilà.
Il y a 25 cantons qui ont dit non, on ne veut pas de SMIC. On a fait une votation. Mmh. Il y a un canton qui s'appelle le canton de Genève, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont voulu... et le SMIC aujourd'hui à Genève, alors c'est un SMIC cantonal.
Oui.
C'est pas un SMIC fédéral.
Ah, c'est très bien.
C'est pas le pays. Ils ont choisi.
C'est un peu ce qui se passe...
Et il est à 4002.
C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis aussi, où vous avez la Californie où il n'y a que des fous qui votent des SMIC pas possibles, et vous allez dans le Texas, il n'y a pas de SMIC, et il y a plein de chômage en Californie, il n'y en a pas au Texas. Voilà. Quoi, donc c'est la même... Donc c'est toujours... Vous redettez, dans le fond... Vous prenez des décisions locales et vous en supportez le coût localement, ce qui est très bien. Et donc, la Suisse a aussi une industrie qui est extraordinairement forte. Tout le monde parle de désindustrialisation. Tout le monde m'explique que c'est parce que les Chinois, etc. Or, les Suisses ont des salaires extraordinairement élevés. Et ils ont aujourd'hui un appareil industriel qui, je crois, est plus important que l'appareil industriel en France. Mais en chiffre absolu. C'est-à-dire que vous...
C'est-à-dire qu'en secondaire, on est à 25%.
Oui, mais en secondaire, vous êtes à 25%, mais... 25% en France suisse, nous on est à 8%. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'en arrive à la conclusion que peut-être l'industrie suisse est plus importante aujourd'hui que l'industrie française, quoi. Mais en chiffre absolu. Ce qui est quand même étonnant. Donc, c'est un succès incroyable. Et quand je regarde ça, je vois que la Suisse, le poids de l'État, donc de structure fédérale qu'on a discuté, était 30% en 1958, quand il y avait De Gaulle, là. Et en France, on était à 30%. Aujourd'hui, la France est à 60 et la Suisse est à 30%. Vous n'avez absolument vu aucune augmentation du poids de l'État dans l'économie depuis 70 ans. Ce qui est ça stupéfiant, parce que dans tous les autres pays du monde, vous avez eu cette dérive social-démocrate, je me copie de plus de trucs. Les Suisses, vous êtes restés à 30%. C'est-à-dire que si on demande son avis au peuple...
Mais chaque Suisse est un entrepreneur.
Voilà.
Le citoyen suisse est un entrepreneur.
Mais il est entrepreneur. Au moins lui-même.
Il va devoir voter pour l'argent qu'il va dépenser dans sa commune, c'est lui.
Oui.
Ça change totalement que si ça vient d'en haut.
Ben, c'est-à-dire que, vous savez ce que disait Bastiat, un économiste français qui était remarquable, qui écrivait un français magnifique, qui écrivait dans les années 1840. Il disait « L'État est le mythe par lequel chacun espère vivre aux dépens des autres. » Ben, c'est pas le cas en Suisse.
Non.
C'est pas le cas en Suisse. Le Suisse, il vit...
de son travail et de sa citoyenneté. Et donc, je trouve ça admirable. Donc, j'ai voulu faire cette présentation avec vous parce que...
Ben, je vous remercie.
Non, mais d'abord, vous avez fait un travail considérable et il fallait que nos auditeurs le connaissent. Et surtout, vous montrez...
Mais qu'on soit bien d'accord que c'est pas un projet. Hein.
Non, c'est pas un projet,
c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. 100% est une réalité et tout est...
Et tout est décrit dans ce livre.
Voilà.
Comment c'est, il y a des tas de réalités, par exemple, sur les écoles, les universités. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 25% des classes d'âge qui ont la maturité, c'est-à-dire le bac, en Suisse. Parce qu'ils ont trouvé d'autres façons.
C'est 25% uniquement, oui.
Donc, tandis que nous, on est à 98% et on a que des crétins. Et donc, si vous voulez, ils développent les enfants d'une autre façon, directement en liaison. Donc, il y a toute une série de choses, mais qui passent toujours par des initiatives individuelles et par le bas. Et c'est pour ainsi dire jamais des initiatives qui viennent du haut, quoi, qui sont...
Jamais. Jamais, aucune.
Et donc, ça prouve quelque chose, c'est ce que disait encore une fois Montaigne, que j'aime beaucoup, bien sûr. Il disait, j'aime les gens de mon pays, c'était la Guyane, là-bas, parce qu'ils n'en savent pas assez pour raisonner de travers. C'est-à-dire, c'est ça que j'aime avec les Suisses, c'est qu'ils sont d'une grande modestie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très fiers d'être Suisses, mais ils pensent pas transformer l'homme ni transformer le monde.
Non. Non, je vous accorde.
Donc, cette espèce de façon d'être...
Je suis peut-être une exception alors de venir sur un territoire étranger pour parler de la Suisse, mais...
Non, parce qu'il faut que les gens en France se rendent compte que, dans le fond, il existe que... Nassim Taleb appelle les E, Y, I. C'est-à-dire les EY, c'est-à-dire educated, yet idiot. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un type intelligent que vous mettez au pouvoir avec des idées qui veut changer le monde.
Vous voyez
ce que je veux dire?
Vous aventurez là.
Mais je m'aventure donc si vous voulez. En France, on a cette idée que si vous avez fait de bonnes études, vous êtes plus intelligent, ce qui n'est pas vrai. Et si vous avez fait de bonnes études, vous êtes plus à même de prendre des décisions, ce qui n'est pas vrai. Donc, tous les malheurs de la France viennent d'une élite qu'on a sélectionnée d'une façon imbécile. Le peuple est parfait. Moi, j'adore le peuple français.
Je vous laisse.
Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, l'autogestion a été un truc de la gauche. Ils voulaient les mettre dans les usines, mais ça marche pas. Mais l'autogestion du citoyen suisse, de la démocratie suisse, c'est peut-être un projet qu'on pourrait essayer d'avoir en France, l'autogestion de la démocratie française par les citoyens français.
Mais je souligne une chose que je n'ai pas encore dite. Et c'est moi qui en parle. C'est apolitique.
Complètement.
Est-ce que vous avez conscience que c'est apolitique tout ce que je viens de dire?
Oui, il n'y a pas de...
C'est valable pour tous les citoyens côte à côte. C'est tout.
C'est-à-dire qu'on se débarrasse de cette espèce de carcan qu'on nous a en France. On dit, dès qu'on ouvre la bouche, on vous dit vous êtes d'extrême droite, ou vous êtes... J'ai envie de leur dire, mais je ne suis pas d'extrême droite, je suis juste compétent. Donc, si vous voulez, cette façon de créer des clivages politiques et des antagonismes qui n'ont pas lieu d'être, c'est ça qui tue la France, quoi. Tous ces crétins qui me disent que je suis de droite, d'abord, je sais pas si je suis de droite, puis ensuite, je m'en fous. C'est pas mon problème. Ce que je voudrais, c'est que ce pays marche bien et soit heureux, quoi. Donc, c'était un effort pour montrer qu'il y a d'autres solutions que l'homme providentiel.
Et pas loin, hein. Et pas loin.
Pas loin. Non, on aurait pu se renseigner, mais vous remarquez comme on parle peu de la Suisse en France, parce que c'est...
Jamais.
On vous parle des luttes de pouvoir en Angleterre, aux États-Unis, etc., mais en Suisse, jamais. Donc, le seul pays qui marche bien, c'est la Suisse, et personne n'en parle jamais, et personne ne connaît le nom des hommes politiques. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre, quoi.
À votre
Donc,
disposition.
Je voulais vous remercier d'être venu, et je voulais surtout vous remercier d'avoir
fait ça. Je ne vais pas être arrêté en sortant d'ici, non?
Non. Oh, non, mais par contre, oui, c'est arrêté, je ne pense pas. Mais si vous avez des biens en France, vous serez peut-être l'objet d'un contrôle fiscal.
Ah bon?
C'est pas exclu.
Mais le secret bancaire, alors?
En France, vous rigolez ou quoi?
Ah bon? Non, mais chez nous, il existe toujours.
Oui, pour les Suisses.
Oui, donc il faudra le demander aux Suisses. Et comme les Suisses vous répondront non, on ne peut pas, le secret bancaire existe en Suisse.
Oui. Alors, ils ont fait une coquinerie, là, les Suisses. Si vous êtes Suisse, vous êtes toujours protégé par le secret bancaire. Si vous êtes Français, beaucoup moins en Suisse.
Ah, beaucoup moins.
Ça a sauvé... La Suisse a sauvé la bourgeoisie française pendant 2 siècles. Et maintenant, vous êtes plus... Vous êtes plus... Vous nous aidez plus. Vous nous abandonnez au milieu de la, du guet.
Mais c'est sûr que c'est exportable. Oui, moi je vois très bien, parce que je suis quand même biparti là maintenant. Hein. J'ai passé 40 ans en France, 40 ans en Suisse. C'est biparti. Qui habite la Suisse? Ce sont des Allemands, des Italiens, des Français. Bon,
attendez. Il y a quelques romans dans un coin, non?
Pardon?
Il y a quelques romans dans un coin.
Et des romandis, oui, là-bas, là où.
Ils sont
à Saint-Moritz, à Davos, oui.
Ils sont quelques-uns, mais ils sont pas très nombreux.
Non, il y a 80 000, peut-être. Et, oui, parce que c'est la quatrième langue officielle.
Et alors, vous savez que sur les billets de banque suisse, vous pouvez les lire en braille, hein.
Ah, je vous avais amené un billet. Vous voulez le voir?
Oh, ben, il faut que vous le gardiez parce que ça va.
Non, mais les gens. On me l'avait demandé plusieurs fois parce que j'ai eu des. Je vous ai rapporté. Oui, je vous ai rapporté un petit billet. Enfin, j'ai économisé beaucoup pour l'avoir.
Oui, bien sûr.
Voilà. Ça, c'est un billet de.
Ah, mais c'est le plus gros billet du monde, ça.
Oui, c'est le plus gros billet du monde.
1000 francs suisses.
Voilà, le plus gros billet du monde. Avec Singapour,
oui.
Mais Singapour n'en édite plus. Donc c'est le plus gros billet du monde en circulation et qui est réédité, réimprimé, si je puis dire.
Mais c'est drôlement bien ça, parce que je connaissais une famille très, très importante en France qui avait, le grand-père était mort.
Je ne vais pas le brûler, hein, parce que j'ai connu d'autres gens qui avaient un billet de 500 et qui l'avaient brûlé, mais il en est mort. Hein.
Oui, ça ne faut pas le brûler, mais il faut le garder précieusement. Parce que je connais des gens qui achètent ces billets-là, au marché, etc., enfin, librement, et qui vont les mettre dans un coffre. Comme si c'était de l'or.
Ben oui. Mais c'est de l'or.
C'est quasiment de l'or, parce que vous pouvez couvrir votre masse monétaire avec l'or que vous avez.
70% du trafic d'or passe par la Suisse.
Je sais bien. Et tout part ensuite par des Boeing 747 à Pékin. Ou à Hong Kong. J'avais discuté longuement avec des gars qui étaient des fondeurs suisses. Vous savez, ils m'avaient dit que depuis 5 ans, ils travaillaient que pour la Chine. Donc, et ça, c'est encore une chose que je vais vous dire, et puis on va arrêter ici, c'est quand l'or quitte un pays, l'Europe, mettons, quand l'or sort d'Europe, il faut jamais acheter de l'immobilier d'où l'or s'en va, il faut toujours acheter de l'immobilier où l'or arrive.
Oui. j'ai oublié de vous dire, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de secret bancaire en Suisse. Oui. Et que la monnaie, je ne dis pas que je vais aller acheter un croissant à la boulangerie, donner un billet de 1000, bon, elle va vous regarder, non, même pas bizarrement. Mmh. Elle va vous dire, attendez, je vais chercher la monnaie. Voilà. Bon, voilà. Donc, elle est pas bizarre, bon. Et il faudrait éviter de donner un billet de 1000 pour acheter un croissant d'un franc suisse ou de deux francs suisses, voilà.
Voilà.
Mais voilà.
Merci infiniment, je vous remercie. On va voir le tabac que vous allez faire, j'espère qu'il sera très important.
Est-ce que le sujet intéresse d'autres gens?
Ce que je sais, c'est que les émissions qu'on avait faites sur la Suisse ici avaient été des gros succès, à 300 ou 400 000 vues. Mais c'était pour expliquer comment la Suisse fonctionnait, pourquoi ça marchait, etc. Et là, on a fait quelque chose sur la démocratie directe en Suisse, ouais. Pour expliquer que c'est pas par hasard si ça marche en Suisse, c'est que leur constitution est de qualité.
J'ai juste oublié de vous dire que l'organisation de la Suisse, c'est pas le référendum. C'est la page 608. Le référendum, c'est la page 608 de mon livre.
Oui.
Une page. Donc vous voyez tout ce qui reste.
Oui, mais c'est ça.
Et je compare la Suisse et l'organisation de la Suisse à une organisation d'une montre Vacheron Constantin, une bonne marque de montre, qui a sorti une montre de 900 grammes et qui a 2377 pièces. Qui compose la montre. Eh bien, la démocratie suisse, c'est un peu ça.
C'est très bien comme image. Ça veut dire des tas de petits trucs, mais qui marchent bien.
Eh bien, elle est à l'heure, la Vacheron Constantin.
Elle est à l'heure.
Enfin, il paraît, à ma connaissance, elle est absolument à l'heure. Et elle indique beaucoup de choses. L'âge du capitaine, le truc...
La lune, le soleil...
La lune, le soleil, tout. Et le cours du franc suisse.
Qui a tendance à monter. Moi, j'avais un vieil ami anglais... Non, mon vieil ami suisse qui était Ernest Gutzwiller, que j'allais voir, qui m'a servi un peu de mentor quand j'étais jeune. Il y avait quelqu'un qui lui avait dit qu'il devait acheter de la livre sterling. Alors il avait dit, écoutez, j'ai connu la livre sterling à 24 francs suisses, à 12 francs suisses, à 6 francs suisses, à 3 francs suisses. Quand est-ce que j'aurais dû acheter?
Un franc suisse égalait un franc français en 1961.
Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on est à...
Oh bah attendez, 3 ou 4 dévaluations, alors on peut plus, bon. Mais vous m'avez dit, bon, voilà. Donc le franc suisse n'a jamais dévalué. Hein.
Ben non.
On est à 0,95, 92, aujourd'hui à peu près.
Non, mais donc... Voilà.
Un euro égale 0,92 francs suisses.
La solution, si vous voulez, c'est que
le maximum de décisions soit prise dans le système économique, politique, social, le plus près possible de celui qui bénéficiera ou paiera cette décision. Et c'est la solution qu'a trouvée la Suisse. C'est que la plus grosse partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les villes lèvent leurs impôts pour faire marcher leurs services municipaux, quoi, c'est tout. Et il y a une interdiction constitutionnelle du déficit budgétaire en Suisse.
Bah, c'est dans la Constitution qu'on n'a pas le droit de dépasser le zéro, non pas le 3%, qui est une invention absolument... absolument, bon. Donc évidemment, en Suisse, on doit être équilibré, mais les comptes sont équilibrés. Je les avais amenés, si vous me posiez des questions. On est absolument, au million près, on est équilibré cette année. Et l'année dernière aussi, on a eu le Covid, on a eu ci, on a eu ça, on a tout eu aussi en Suisse.
Donc...
Voilà.
Merci infiniment. Et
pas du tout, et à la prochaine édition.
À la prochaine édition, voilà. Et si vous avez d'autres choses à nous dire sur la Suisse, on fera peut-être une émission un jour sur la façon dont l'économie suisse fonctionne, sur justement les entreprises suisses, comment ça passe.
Ah, volontiers.
C'est parce que là aussi, il y a des différences essentielles. C'est, oui. Donc on fera peut-être ça d'ici quelques temps. On va voir le succès ou l'absence de succès de cette émission. Mais
vous savez qui on pourrait récompenser ? On va donner un prix. Un prix à celui qui voit le président de Nestlé monter les escaliers du Palais fédéral à Berne.
Il est jamais.
Celui qui va m'amener cette photo.
Il y va jamais, il n'en a rien à foutre.
Jamais. Ouais. Bien sûr. Jamais.
Parce que le conseiller fédéral n'a rien à lui dire, et lui, il n'a rien à dire au conseiller fédéral.
Mais rien. Rien du tout.
Parce que nous, on voit tout.
Voilà. Deuxième chose que je peux dire, c'est que moi, j'ai habité le canton de Vaud très longtemps. Et dans le canton de Vaud, il y a une petite société qui fait des petits paquets, des trucs pour les enfants et pour tout le monde, pour les chiens, pour les chats et compagnie, qui s'appelle Nestlé. Oui. Mais moi, je suis enchanté que Nestlé soit dans mon canton de Vaud. J'y suis plus, je suis dans le Valais maintenant.
Parce qu'ils payent un maximum
d'impôts. Mais parce qu'ils payent un maximum d'impôts que moi, je n'ai pas à payer pour faire ça, parce que... Et quand il vient me dire 15%, ça me paraît trop pour moi... Je pense que 13%, ça me semblerait normal que vous nous taxiez à 13% sur les bénéfices. Je lui dis, bah, écoutez, on va étudier ça, mais je vois, et on fait une votation, et on dit oui, on vous accorde 13% d'impôt sur les bénéfices de Nestlé. Et je le caresse dans le sens du poil, en le remerciant beaucoup, et en sortant, et surtout en voulant le garder. Il n'y a pas cette agressivité qu'il y a ailleurs, sur les sociétés.
Et sur les patrons de société. Donc.
Merci.
Merci encore. Et puis, je crois qu'on a fait du bon travail. J'espère.
Vous croyez ?
Oui. J'espère parce qu'après cette petite réunion, je crois que les Français comprendront mieux comment ça marche.
Utile était possible de le faire autrement et mieux ? Si, c'est le moment de dire. Je ne sais pas.
Je ne crois pas.
Moi, je ne sais pas. Et personne n'aime la Suisse. Hein. Non, personne. Vous n'avez pas un politique qui vous parle de la Suisse.
Jamais.
572 kilomètres de frontière avec la Suisse. On parle jamais de la Suisse. Il y a des centaines de milliers de Français qui passent la frontière française tous les jours.
Et c'est pas pour aller travailler en Suisse, en France, je veux dire. Ils passent la frontière pour aller travailler
en
Suisse.
Pour venir travailler. Depuis Bâle jusqu'à Genève, vous avez des centaines de milliers de Français qui passent la frontière. Et qui viennent travailler en Suisse. Bon, mais jamais un mot sur la Suisse, jamais. Et il y a des journalistes qui ont horreur de la Suisse.
Vous connaissez la phrase d'un homme qui était un éminent sociologue français et un très bon. Il disait « Les intellectuels en France n'aiment pas le libéralisme parce que dans le système libéral, ils seraient payés à leur vraie valeur. » Je crois qu'on va rester là-dessus. C'est que tous ces gens qui sont payés par l'État pour faire de la saloperie voient pas du tout pourquoi... Ils auraient un système où ils devraient justifier de leurs émoluments.
Merci.
Et merci encore. Merci mille fois.